Tendance première.
Stéphanie Grosjean, avec vous aujourd'hui dans notre séquence transition, on va parler de management humain et durable.
Oui, un homme qui est avec nous en studio ce matin, Benoît Thiran. Alors Benoît Thiran, il se définit comme un transmetteur, un passeur, un éveilleur de sens. Dans quel domaine? Donc celui de l'entreprise et des organisations. Avec sa société MHD pour Management Humain et Durable, il réorganise et accompagne les entreprises vers un mieux-être, vers une meilleure productivité, vers plus d'engagement et d'implication aussi au sein des troupes. Mm-hmm. Parce qu'il a une conviction que bien-être au travail et productivité sont indissociables. Et c'est vrai que je trouve que c'est une conviction qui est bien à propos dans le monde d'aujourd'hui où quand même le nombre de burn-out est en perpétuelle augmentation. C'est vrai que qu'on le veuille ou non, petite, moyenne ou grosse entreprise, en expansion ou en délestage, le monde de l'entreprise aujourd'hui est en pleine mutation. La crise de 2008 est passée par là, elle n'est pas encore colmatée. Internet a définitivement changé nos comportements, changé aussi les pratiques commerciales. Les rapports, les relations commerciales se mondialisent et se complique, et puis la vie au travail et le rythme de vie au travail n'en finit pas de s'accélérer. On va aussi en parler avec Benoît Thiran, mais une étude importante réalisée par l'Institut de sondage Gallup, auprès de 25 millions d'employés dans le monde révèle en fait ce malaise et aussi le gaspillage d'énergie dans la productivité. L'étude analyse le sentiment d'engagement des employés au sein de leur entreprise. Mauvaise nouvelle pour la Belgique ici en 2017, puisque le sondage montre que depuis 2011, en fait, le nombre de personnes qui ne se sentent pas du tout engagées ou investies dans leur entreprise a augmenté, alors que justement ceux qui se disaient très engagés, ce nombre-là est en diminution.
Ouais.
Aujourd'hui, il semblerait qu'une seule personne employée sur 10 serait heureuse au travail.
Mince, on est trois dans le
sujet. On est trois. Je suis indépendante. Je ne suis pas concernée.
Mais vous êtes indépendant aussi, Benoît.
100%. Hein, oui, c'est fantastique. Ici,
donc c'est moi, voilà. En fait. Au travail. On a échappé belle.
Donc voilà, l'objectif de Benoît Thiran avec sa société et ses coéquipiers, c'est d'aider les sociétés et les organisations à se réorganiser en partant des humains qui composent leurs équipes. On va le voir avec lui, mais avec l'aide de ses coéquipiers, il va même jusqu'à libérer des entreprises. On va aborder la notion d'entreprise libérée, donc des entreprises qui sont prêtes à revoir leur fonctionnement à l'aune des outils de la transition, que sont l'intelligence collective, la gouvernance participative et l'innovation organisationnelle.
Benoît Thiran, bonjour.
Bonjour.
On vous a déjà un peu entendu, mais avec votre société MHD pour Management Humain et Durable, la situation est aussi exécrable qu'on le dit vraiment?
Par exemple, l'étude Gallup dont on vient de parler, donc ils ont développé un questionnaire qui s'appelle le Q12, donc 12 questions, qui permettent en fait d'évaluer, ils ont classifié les employés en trois catégories. Oui. Les personnes activement engagées, c'est-à-dire ceux qui viennent au boulot et qui sont vraiment heureux de faire leur boulot, qui sont innovants, qui s'investissent. Après, la seconde catégorie, c'est les pas engagés. Alors les pas engagés, c'est ceux qui offrent du temps à l'entreprise, mais ils ne s'y réalisent pas vraiment. Et donc pour eux, la vie commence, s'ils ont fini à 17h, après 17h, on va dire, là où ils se réalisent vraiment, c'est pas dans leur entreprise. Ils font ce qu'ils doivent faire, et donc on les appelle les pas engagés. Et puis, à l'autre extrême, il y a les complètement désengagés. Alors ça, c'est ceux qui sont souffrants, en général, mais ceux qui, du coup, je vais dire ventile cette souffrance, se plaignent, mettent des bâtons dans les roues, font obstacle, obstruction, enfin voilà. Donc, et ce qui est assez préoccupant, c'est qu'effectivement, la catégorie activement engagée, par exemple en Belgique, en 2011, ça représentait 12%, maintenant en 2017, 10%, donc ça a baissé, on a encore moins. Si on va chez nos voisins en France, qui sont parmi les plus mauvais élèves avant-dernier en Europe, 9% en 2011, 6% en 2017, donc c'est vraiment très très bas. Par contre, les pas engagés, on tourne autour des 70% environ, un peu moins en France, en Belgique c'était 66, c'est maintenant 73. Et les complètement désengagés, donc ceux qui vraiment font obstruction, en Belgique on était à 22% en 2011, on est à 17% maintenant, ça a un petit peu baissé, mais ça reste quand même beaucoup.
Mais est-ce que l'étude aussi essayait de comprendre et d'explorer à travers ces questions le pourquoi du désengagement? Parce qu'il peut y avoir beaucoup de raisons internes à l'entreprise, mais pas toujours, justement.
Ah oui, donc le pourquoi, ce qui est très clair, c'est que c'est très fort lié à la manière dont les personnes au bien-être, vous en avez parlé tout à l'heure, mais à la manière dont les personnes peuvent se réaliser dans l'entreprise. Ouais. Un des gros problèmes, c'est que la grande majorité des gens, quand on arrive, on laisse une grande partie de soi sur le parking. J'ai 50 à 70%, oui. Et donc, on vient qu'avec une petite partie de soi dans l'entreprise. Et tout le reste, ben, ça reste pour après 17h ou pour les week-ends.
Ouais.
Bon, pour l'entreprise, c'est une perte immense, me semble-t-il. Pour la personne, c'est comme vivre sur une jambe quand on en a deux. Et donc, il est très clair, en tout cas, Gallup a établi, parce que je vais prendre la question autrement, ce que Gallup affirme, et ça c'est fort, c'est qu'il existe un lien direct entre le bien-être au travail et la performance des entreprises. Ça, bon, sur un très grand nombre, ils peuvent très clairement montrer que les entreprises qui ont réussi à développer ça, eh bien, effectivement, par ailleurs, elles sont plus performantes.
Oui. Donc, si mon entreprise va bien, je vais bien. C'est ça.
Oui. Si les relations dans mon entreprise vont bien, si la manière de collaborer entre les... non, c'est plutôt l'inverse. C'est pas si... Enfin, si mon entreprise va bien, je vais bien. Ça, ils ne le disent pas dans ce sens-là. Ils le disent dans l'autre sens.
Ah, mais
si les relations dans mon entreprise vont bien, si la manière de collaborer entre les êtres humains, si on se sent en sécurité, qu'on peut être soi-même, qu'on peut amener les différentes facettes de sa personnalité, qu'on peut vivre aussi dans ce qui va moins bien, sa vulnérabilité, avoir des... Eh bien, alors mon entreprise risque effectivement d'aller mieux.
D'où l'objectif, si j'ai bien compris, de justement partir de l'humain dans, dans cette transition organisationnelle. Et comment vous y prenez-vous exactement? Par où commencer généralement?
Alors, moi je dirais que par où commencer, il y a deux choses, c'est pas une ou l'autre, mais il y a deux choses essentielles. Il y a la façon de travailler ensemble, les relations. Quels sont les mécanismes des relations? Qu'est-ce qui fait qu'on ferme ou qu'on ouvre la relation? Bien souvent, inconsciemment. Moi, j'ai beaucoup travaillé, donc je viens entre autres du secteur de ce qu'on appelle la non-violence active. Eh bien, une des grosses questions que j'ai beaucoup travaillé, c'est où commence la violence? Bien avant, en général, ce qu'on nomme violence, c'est que la pointe visible de l'iceberg, c'est un dixième. Mais qu'est-ce qui fait, je vais dire, fossé? Ou qu'est-ce qui construit un mur entre moi et vous qui fait que je ne vais plus trop oser dire les choses, ou que je vais dire qu'une partie, ou que je vais me méfier de vous, je vais vous éviter. Bon. Donc, et quels sont les mécanismes qui nourrissent ça? Donc les mécanismes de la relation, ça c'est une chose pour moi. Deuxième chose pour la façon de travailler ensemble, c'est quelles sont des méthodes qui nous aident à collaborer et que chacun puisse amener sa richesse. Donc ça, c'est toutes les méthodes d'intelligence collective et de gouvernance participative. Et alors, en parallèle à ça, donc façon de travailler ensemble, j'ai dit, l'autre c'est travailler sur soi. Parce que le principal obstacle à ce que ça marche mieux, c'est moi. On ne sait pas changer les autres, on sait changer soi. Et donc, travailler sur moi, sur mes croyances, mes freins, mon ego, enfin tout ce qui fait qu'en fait, quand je vais me retrouver dans quelque chose de plus collaboratif, parfois ça va gratter, ça va coincer, ça va... Bon. Et donc là, j'ai un chemin à faire, chacun a un chemin à faire.
Moi, j'ai des dossiers sur tous les membres de mon équipe.
Ils sont fichés.
Ils sont fichés. On va revenir parce qu'il y a beaucoup de notions extrêmement intéressantes et justement, dans l'aspect collaboratif, peut-être aussi beaucoup de croyances ou pas, et on va voir justement peut-être les croyances que vous devez détricoter aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on dit sur le changement du management, avec parfois beaucoup d'espoir aussi peut-être de la part et des entreprises et des employés, et puis des choses qu'il faut parfois remettre un petit peu au point. Et comment concrètement vous allez travailler avec ces entreprises pour améliorer la situation? Ce sera juste après.
10h midi, Véronique Thiberguien sur la première.
Notre séquence transition avec Stéphanie Grosjean et Benoît Tyran pour la société Management Humain et Durable, MHD, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur internet. Alors c'est pas mhd.be, c'est m-h-d.be. Voilà,
tout à fait.
J'y suis arrivée, pour bien faire la différence aussi. On a fait un état un petit peu des lieux, on en a parlé un petit peu de la manière dont vous commenciez un peu à cerner dans les entreprises, comment fonctionnaient les relations au sein des équipes, etc. Puisque vous vous centrez sur l'aspect humain avant tout, mais est-ce que la réception est la même quand vous venez travailler avec une entreprise de la part des employés et de la part de la direction? Est-ce que c'est la même façon de voir les choses ou est-ce que parfois vous devez un peu justement détricoter des clichés, des croyances de la part des uns et des autres?
La même, non. Oui, il y a des croyances. Par exemple, au niveau de la direction, la croyance que c'est eux qui savent mieux, que c'est eux qui ont la science infuse ou qui peuvent décider. C'est une croyance, notamment dans le monde des entreprises libérées, ou si on rentre dans l'intelligence collective, c'est une croyance sur laquelle il faut travailler. Oui. Et donc de se dire, bah, par exemple, hein, beaucoup de dirigeants, de quoi est-ce qu'ils ont peur face à l'intelligence collective, de quoi ils ont peur? Ils ont peur de deux choses. Ils ont peur de perdre leur pouvoir, point 1, et ils ont peur de perdre du temps. Que ça prenne beaucoup de temps et que... Et je dirais que par rapport aux deux, perdre leur pouvoir, ils ne le perdent pas. Mmh. Au contraire, ils le partagent. Et donc, en fait, c'est très confortable pour un dirigeant quand il a appris et qu'il rentre dedans. Au début, c'est insécurisant. Parce qu'il n'est pas habitué, il n'a pas fonctionné comme ça. Mais donc, quand il a appris à fonctionner comme ça, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que quand on travaille les choses en intelligence collective avec les différents acteurs qui sont relevants par rapport à la décision qu'on a à prendre, eh bien, les objections, elles vont sortir avant la décision. Et donc, on va adapter la décision ensemble. Et la décision, ce serait une décision, on appelle ça par consentement, c'est pas le consensus, hein. Le consentement, ça veut dire qu'on demande à chacun s'il a une objection. En d'autres termes, est-ce que je peux vivre avec cette décision? Est-ce que je peux la faire mienne? C'est pas nécessairement la mienne au sens c'est ma préférée, mais on n'est pas dans une question de préférée, on est au service de l'entreprise et d'un projet commun. Et donc, il faut que je puisse adhérer à celle-là, même si c'est peut-être pas ce que j'aurais fait individuellement. Et donc, c'est tout un travail, par exemple, pour le dirigeant. Ce sera peut-être pas sa décision à lui, mais elle sera peut-être bien plus efficace que la sienne à lui qui allait réveiller plein de résistance. Mmh. Okay? Donc, moi, je dirais, oui, il y a un travail. Alors, voilà, il y a un travail qui est différent. De la part du côté des employés, la plus grosse difficulté à vaincre, c'est quelque part qu'ils deviennent acteurs. Oui. Parce que voilà, c'est un des gros, et notamment dans la non-violence, on voit très fort ça, il y a les deux pôles. Les gens, quand on parle de non-violence, ils pensent uniquement c'est non à la violence et ils voient la violence comme la violence agressive. Mm-hmm. Okay, c'est un pôle de la violence. Mais il y a toute la passivité est une forme de violence. Et donc ne pas exister, ne pas oser exister, déjà c'est me faire violence à moi, puis c'est permettre que l'imposition ou ce qui donne pas vie continue. Et donc, quand on parle de non-violence active, c'est autant sortir de la part agressive que sortir de la part passive. Et ça, du côté des employés, c'est souvent, et dans certaines structures, c'est ça la grande majorité. Il y a quelques personnes un peu agressives, ceux qui ont les guts, comme on va dire, ou certains, mais c'est pas du tout la majorité. La majorité, qu'est-ce qu'ils font? Ils la ferment. Ils ont essayé une fois, deux fois, et puis ils ont compris. Donc là, il y a vraiment, comment est-ce que je vais pouvoir prendre ma place, oser exister, amener ce que je vis, ce que je sens, même si je n'ai pas fait telle étude d'ingénieur ou je ne sais pas quoi, moi.
Non, parce qu'il y a des gens, parce qu'on parlait de croyances, dans le chef des salariés ou des employés, il y a parmi eux des gens qui ont besoin d'avoir une structure cadrée, nette, à l'ancienne, et qui se sentent complètement perdus une fois qu'il s'agit d'être plus créatif, livré à soi-même, être autonome, être entendu aussi, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas à l'être ou que de toute façon ils ne le seront pas. Donc il y a aussi un travail à faire, je trouve, du côté des salariés et des employés parfois.
Alors c'est tout à fait vrai. Moi je dirais il y a deux réponses à ça. D'abord, c'est pas la panacée, ça n'existe pas la solution pour tout le monde. D'ailleurs, l'entreprise libérée ou ce travail, il n'y a pas un modèle. Il n'y a pas de modèle. On va construire ensemble ce qui est ajusté pour l'entreprise ou pour l'équipe qui est là. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des besoins différents. Mais alors, il y a une seconde partie à la réponse, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est aussi une croyance et qui, en général, est très mal. Les gens ont l'impression que si on rentre dans l'intelligence collective ou si on rentre dans l'entreprise libérée, il n'y a plus de cadre. Mmh. C'est complètement faux. Il y a plus de cadre que dans les entreprises. Seulement, la grosse différence, c'est qu'en fait, le cadre est un cadre qu'on a. Enfin, au début, il peut avoir été mis par certains, même éventuellement par l'intervenant externe, moi par exemple, mais ce n'est qu'un cadre de départ. Après, quand tout le monde va rentrer et jouer dans le jeu, le cadre, il va évoluer. Et il va évoluer avec tous les acteurs qui sont là, qui vont petit à petit acquérir de la confiance et il va devenir leur cadre à eux et pas celui de la société d'à côté ou de l'équipe d'à côté. Et donc, ce cadre, chacun va s'en responsabiliser. Et on voit que quelque part, le cadre est beaucoup plus exigeant dans ces cultures-là, mais c'est chacun qui assume. C'est pas une personne qui veille pour tout le monde. Et donc, voilà, ça c'est une des croyances qu'il faut vraiment oublier. Ce n'est pas l'anarchie, bien au contraire. J'ai envie de dire, c'est le cadre.
C'est pire vraiment qu'avant. Stéphanie.
Mais aujourd'hui, quel type d'entreprise aidez-vous? Est-ce qu'elles sont de petite taille, de grosse taille, en expansion ou justement en restructuration?
Alors, de tout. Moi, j'ai envie de dire, c'est fondamentalement les entreprises qui désirent construire des fondations humaines durables. Okay. Et ça, il n'y en a pas que dans les petites ou les grandes, ou sociétés privées, ou d'État. Ou de... Donc, il y a vraiment... moi, je ne suis pas dans tout, mais j'ai travaillé, moi, dans le public, dans le privé, dans des petites, dans des grandes, dans l'associatif. Donc, oui, effectivement, pas mal de... Mais je crois que c'est vraiment, avant tout, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse de travailler, c'est avec ceux qui veulent mettre l'humain au centre. Oui, ça, c'est clair.
Ça veut dire que vous travaillez uniquement avec des entreprises qui sont en crise ou en passe de l'être, ou est-ce que vous rencontrez parfois des entreprises qui sont très proactives, pour lesquelles il n'y a pas un problème réel de management, mais qui se disent « je voudrais bien quand même initier un changement parce que je le trouve plus intéressant ou plus créatif que ce qui est mis en place aujourd'hui ». Est-ce qu'il faut attendre la crise pour faire appel au changement ?
Pas du tout. Moi, je dirais même... Bon, ce qu'il y a, c'est que ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il y en a deux qui bougent. C'est les deux extrêmes.
Oui.
Donc, il y a ceux qui souffrent parce qu'ils veulent sortir de la souffrance, et il y a ceux qui sont innovants parce qu'ils veulent avancer.
Oui.
Et donc, parce que moi, je dis toujours, c'est difficile de donner à manger à quelqu'un qui n'a pas faim. Mmh. Donc, tous ceux qui sont mieux et qui n'ont pas envie de quoi que ce soit, c'est vraiment difficile de commencer avec eux. Ils n'ont pas envie de travailler ou de faire quoi que ce soit. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est effectivement ceux qui veulent avancer. Et donc, bon, ces deux cibles que vous avez citées là, c'est les deux cibles les plus faciles. Mmh. Ceux qui sont en souffrance ou ceux qui sont innovants. Avec eux, il y a vraiment moyen d'avancer. La cible la plus difficile, c'est ceux qui ne veulent pas. Okay. Et donc là, comment mettre en route, comment donner faim à des gens qui n'ont pas faim. Je veux dire, ça, c'est... Bon, il y a de nouveau pas de recette, mais c'est en travaillant avec eux, c'est en rencontrant les personnes et en permettant que des choses... Il y en a quelques-uns qui vont se mettre à bouger, puis ça va donner envie à d'autres, et puis, enfin, voilà.
Vous m'expliquiez aussi que c'est justement aussi votre stratégie au sein même de... Enfin, quand vous travaillez avec les équipes et que vous conseillez souvent à un patron de justement aller soutenir une équipe qui fonctionne bien dans son organisation pour qu'il y ait un sentiment d'émulation aussi pour influencer les équipes qui seraient un peu plus inhibées et moins proactives, qui verraient que voilà, pour cette équipe qui marche bien, ben voilà, elles ont mis ça en place, ça a l'air chouette, ça peut être
tout à fait.
Voilà, un sentiment...
Alors, j'ai envie
stimulant.
De parler, là, on est en train de mettre un nouveau produit là, sur le marché, parce qu'une de mes préoccupations, c'était, il y a bien sûr ceux qui veulent les entreprises libérées ou qui veulent libérer leur entreprise, mais c'est un tout petit groupe, ça c'est encore très peu. Par contre, ce qu'il y a beaucoup plus, c'est des gens qui sont dans des entreprises qui ne vont pas être libérées demain en tant que... Mais qui, eux, on vient de faire un bout de chemin là où ils sont.
Oui.
Et donc, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle les ateliers d'Aristote. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Google a fait une étude en 2012, ça s'appelle le projet Aristote. Et dans cette étude, ils se posaient la question, qu'est-ce qui fait que certaines équipes sont plus performantes chez nous, sur 180 équipes pendant 2 ans ? Ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'ils ont découvert, ce n'est pas du tout ce qu'ils pensaient. Ce n'est aucune des choses qu'on demanderait à un manager, il demanderait des tas de raisons. Non, c'est toutes des choses qui sont au niveau de la dynamique humaine. Et il y a 5 critères principalement qu'ils ont mis en évidence.
Oui.
Et nous, avec les ateliers d'Aristote, ce qu'on veut proposer aux équipes, c'est justement un espace où ils puissent se centrer sur ces 5 critères. En plus, Google a découvert que ces équipes sont pas seulement plus performantes, ce qu'ils cherchaient, mais qu'en plus, il y a plus de bien-être, il y a plus d'engagement, il y a plus de collaboration et il y a plus d'impact de leur projet. Donc, et plus de performance, évidemment. Donc en fait, ce que nous, on essaye de proposer, c'est de proposer un temps où les équipes puissent s'arrêter. Pendant, bon, la base c'est 2 jours, hein, et avec une dynamique où elles vont vraiment vivre avec ces nouvelles techniques de management, donc ça c'est nous qui allons animer pour eux, donc même si elles ne les connaissent pas, ils vont les expérimenter, et où ils vont pouvoir vraiment se situer où nous en sommes sur ces 5 aspects dont le résultat est bien-être, engagement, collaboration, impact et performance. Voilà. Et donc, ça, souvent, quand on va chez les DRH avec ça, ils vont évidemment tout de suite nous parler des équipes en souffrance. Et nous, ce qu'on essaye de les interpeller, c'est de dire, OK, il y a besoin de les aider, on peut faire quelque chose pour elles, mais ce sera plus long. Parce qu'elles sont en souffrance, parce que, voilà, il y a des tas de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, ce qu'on leur propose, c'est de dire, ne mettez pas tout le budget sur celles qui sont en souffrance, mettez aussi une partie sur les équipes qui vont bien. Hein. Parce qu'avec celles-là, ça va permettre de mettre en évidence pourquoi elles vont bien. Donc, elles pourront le partager, elles pourront le diffuser dans l'entreprise. En plus, elles vont voir ce qu'elles peuvent encore améliorer et elles iront beaucoup plus vite pour le mettre en place. Et donc, vraiment, on essaye de leur dire, et ça va permettre un effet pour attirer tous ceux qui sont au milieu, toutes les équipes qui ne voulaient pas bouger. Donc effectivement, on essaye de sensibiliser à ça.
Vous êtes passionnant, Benoît Durand.
Merci.
On aimerait vous écouter encore. Vous reviendrez. On
refera, avec joie.
Parce qu'on en fait souvent des émissions pour parler des management et de la des différentes visions qui existent aujourd'hui, la meilleure façon de les mettre en place éventuellement. Pas toujours évident d'ailleurs dans le chef des entreprises d'imaginer par où commencer. Et c'est parfois simplement en posant la question à des spécialistes que vous pourrez avoir aussi une meilleure vision des choses. Je vous invite donc à aller jeter un œil sur le site de Management Humain et Durable, m-h-d.be, et vous en saurez déjà plus sur ce que fait Benoît Thirand. Merci beaucoup.
Merci à vous.